Je rêvais que je dormais dans un piano.
Non.
Allez hop.
Les médias francophones publics présentent.
Oh vas-y, 1, 2, 3, 4.
I love le grand.
Une série musicale en 9 mouvements.
8 mesures, hein, tu fais tout seul.
Composée par Leïla Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Bonio. I love le grand.
Michel, s'il te plaît.
Sur France Inter.
Prenons un musicien de 20 ans, déjà célèbre dans le monde des variétés, Michel Legrand, auteur de plusieurs best-sellers du disque Micro-Sillon, de musique de ballet, arrangeur plein d'idées et d'audace dont nous entendons actuellement une partition et qui nous livre son sentiment avec sincérité.
Michel Legrand, je vous ai demandé de venir à ce micro pour représenter la musique qui a 20 ans. Et je voudrais savoir si, à votre point de vue, il existe un mal du siècle que toutes les générations croient ressentir.
Je sais pas, c'est le mot mal qui me gêne un peu. C'est un grand carrefour, je trouve. Pour un jeune musicien, je crois, aujourd'hui, on doit chercher où se diriger, on doit chercher que faire, que dire, que donner, que... L'issue, enfin, on la voit pas, on la voit mal, on la... Pour un musicien symphonique... Il est très difficile d'être joué, il est très difficile d'avoir une audience, il est très difficile de gagner sa vie. Parce que, hélas, il faut y penser un petit peu, et puis on y tient tous plus ou moins, même si on ne veut pas se l'avouer, se le dire, c'est évident. Et beaucoup de musiciens s'orientent vers la musique légère, la musique de jazz, la musique beaucoup plus petite, évidemment.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors, alors, encore, encore une fois. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là,
quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond vole en éclats dans un grand tonnerre de bois. Ça dégringole du sommet du cinquième ciel. Si tout le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi.
Est-ce que vous pensez que l'avenir pour les gens qui ont 20 ans est une chose grave?
Oui, on peut trouver l'avenir grave, bien sûr, parce que c'est... ça reste une espèce de doute tout de même, c'est quelque chose de ténébreux, mais enfin l'avenir ça doit pas être grave, je crois pas. Il faut que l'avenir c'est beaucoup plus léger que ça, l'avenir c'est beaucoup plus près qu'on l'imagine toujours, ça je pense.
Et quand on a 20 ans au début des années 50, comme Michel, l'heure est à l'insouciance, c'est l'avènement d'un nouveau monde. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse ne demande qu'à s'amuser dans des caves enfumées du quartier latin où on danse jusqu'à l'aube. Bebop, swing, rumba, jazz, la rive gauche parisienne est en effervescence. Le jour, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir font du café de Flore leur QG. La jeunesse noctambule les regarde intrigués, mais de loin, trop occupés le soir venu à courir d'un cabaret à l'autre. L'Écluse, la Rose Rouge ou encore le Méphisto voient apparaître des artistes qui deviendront bientôt des monuments de la chanson française. Dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, la nouvelle génération est là. Juliette Gréco, Léo Ferré, Catherine Sauvage, Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara, les frères Jacques, Mouloudji, Charles Aznavour, Anne Sylvestre, sans oublier Boris Vian et Serge Gainsbourg. C'est à cette époque pleine de promesses que Michel Legrand croisera la route de beaucoup d'entre eux, et cela grâce à une rencontre, celle de Jacques Canetti, le début d'une belle histoire.
Canetti, c'est grâce à lui qui m'a fait faire des disques, qui m'a emmené partout.
Le patron de Philips, hein.
C'était un homme formidable, un organisateur sublime. Il a été pour moi un mentor très très puissant, je veux dire, qui décidait de tout, un peu, vous savez, un peu comme Pierre Lazareff, qui était un mentor dans le journalisme.
I Love Le Grand, deuxième mouvement.
Les années Canetti.
Avec, par ordre d'apparition,
Françoise Canetti, éditrice. Bertrand Dical, journaliste. Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur. Xavier Beauvois, cinéaste.
Jacques Canetti, directeur de théâtre, organisateur de spectacles, spécialiste du disque et de la radio, fabricant de vedettes garanties bon teint.
Je présume que toute ma vie est marquée par le fait que je suis un exhibitionniste raté, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu s'exhiber. Eh bien, j'ai dû reporter ce besoin d'exhiber sur des gens qui avaient du talent.
J'adorais le jazz, j'en jouais déjà un peu dans les clubs comme ça. Je piquais à la place du pianiste de temps en temps pour m'essayer dans les clubs de nuit. Je passe une espèce d'année sabbatique comme ça où je réfléchis. Qu'est-ce que je vais privilégier? Dans quelle direction? Je vais devenir quoi? Un compositeur classique, symphonique? Ils sont ennuyeux. Et puis, tout à coup, j'ai une sœur Christiane qui chante. Alors elle chante, alors je l'accompagne bien sûr au piano. J'étais un formidable pianiste, que j'avais beaucoup travaillé, tout ça. Et puis tout à coup, elle dit, tiens, on en parle à notre père Raymond. Elle avait monté un petit groupe avec une copine à elle, le duo. Je les accompagnais et Canetti les a engagés immédiatement pour faire une tournée où elles chantaient tous les soirs. Elles avaient un numéro qui s'appelait Les Philippines et moi j'étais au piano. Et c'est là où il m'a entendu pour la première fois, Jacques.
La radiodiffusion française présente d'importants extraits du spectacle donné actuellement au Théâtre des Trois Beautés à Paris, direction Jacques Canetti.
Voici Les Philippines.
Nous étions deux garçons, deux filles, notre cas devint délicat.
Jacques Canetti, mon père, est directeur. Il a créé un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Trois Baudets. Et dans ce théâtre, il recherche un pianiste. Et donc, il va téléphoner à tous les gens qu'il connaît. Il cherche un très, très bon pianiste. Et il rencontre Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, qui est un personnage que mon père avait bien connu. On connaît malheureusement l'absence de père de Michel Legrand. Et paradoxalement, Raymond Legrand dit à mon père, Jacques Canetti, « Écoute, Jacques, tu veux vraiment un pianiste qui a du talent? Prends mon fils, Michel. C'est le pianiste le plus doué que je connaisse. » Et mon père va rencontrer Michel Legrand, qui fait ses études chez Nadia Boulanger, qui est à l'école de la musique classique, qui est à l'école de la composition, avec une femme extraordinaire. Et il va décider Michel, alors qu'il étudie dans la journée, il va le décider à devenir pianiste du Théâtre des Trois Baudets.
J'étais un excellent pianiste à l'époque. Et j'ai commencé à accompagner des chanteurs, des solistes, ou des comme ça. J'ai accompagné Henri Salvador, j'ai accompagné Juliette Gréco, j'ai accompagné Catherine Sauvage. Et c'était très amusant, je veux dire, pour un jeune homme seul qui se balade tout le temps de par le monde, enfin, entre le Japon et le... C'est drôle, je veux dire, c'est amusant, tout le temps en avion, tout le temps en voyage, c'était épatant.
Nous voici ce soir dans la coquette salle du Théâtre des Trois Baudets, située au pied de la butte Montmartre, à l'angle du boulevard de Clichy et de la rue Coustou, c'est-à-dire en plein cœur du Paris qui rit. Et l'on rit aux Trois Baudets.
Toute petite fille, j'allais au théâtre des Trois Baudets. C'était un endroit magique. C'était un petit théâtre de 247 places dans lequel des artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes, des musiciens démarraient et chantaient longtemps. C'était pas un concert comme on fait aujourd'hui, mais ils s'installaient dans cette salle. Et Michel Legrand était au piano. C'était un petit piano droit. Je sais que je vois Michel Legrand et que je vois aussi en même temps Darry Cole.
Tout spectacle commence par une ouverture. Allegro par Darry Cole au piano. Darry Cole.
Allô.
Voilà, ils étaient tous les deux à tour de rôle pianistes au théâtre des Trois Baudets. Il y en a un qui jouait avec une aisance, qui jouait d'oreille, qui pouvait improviser, c'était Michel. Puis il y a Darry Cole qui était une sorte de
un chacal.
Personnage poétique qui accrochait un fil sur le petit piano droit du théâtre des Trois Baudets sur lequel il faisait sécher ses chaussettes. J'ai réussi à le dire, formidable.
Et puis vous.
Ah oui, oh, j'adorais Darry. Je veux dire, j'ai connu Darry en 1951, je crois, j'avais 19 ans. Kennedy, qui m'avait déjà entendu jouer un petit peu comme ça, il m'a dit, écoutez, j'organise une grande tournée de 2 mois et demi et je vais vous engager comme pianiste pour la tournée. Alors, il y aura 2 pianistes, il y aura vous et Darry Cole. Et Darry, à l'époque, ne faisait que du piano.
Et voilà le piano.
Ah, voyons l'objet un peu. Voyons comment ça sonne, ça.
Il nous dit, puisque vous avez des gueules marrantes tous les deux, je vais vous écrire un numéro de 2 pianos comiques.
Mais d'où sortent ces sons si soudain?
Darry n'avait jamais fait le comédien, moi encore moins.
Ah, oh, ce piano d'aujourd'hui, quelle merveille!
Oh, c'était pas un triomphe. Et Darry, c'est comme ça qu'il a commencé à parler en scène.
Hey.
Michel Legrand va devenir arrangeur, orchestrateur des disques que mon père produit. Mon père n'est pas seulement le directeur du théâtre des Trois Baudets, il est aussi le directeur artistique d'une maison de disques qui s'appelle Philips. C'est un petit peu l'ancêtre d'Universal, voilà. Et dans cette maison de disques, il y a des interprètes qui chantent des chansons de Léo Ferré, je pense bien sûr à Catherine Sauvage, et mon père va confier à Michel Legrand le soin d'orchestrer des chansons de Léo Ferré. Et c'est Catherine Sauvage, Michel Legrand qui vont permettre à Léo Ferré de faire entendre ses chansons. Léo Ferré était un interprète qui n'était pas aussi extraordinaire qu'il est devenu ensuite. Et chanté par Catherine Sauvage dans cette espèce d'écrin de force que Michel Legrand donne à ses chansons, permet à ses chansons de devenir... ils ont le Grand Prix du disque en 1952, ils sont programmés partout. Et donc les chansons de Léo Ferré jaillissent dans une époque qui est prête à les entendre grâce probablement aussi aux orchestrations de Michel Legrand.
Parmi les artistes de la chanson que nous n'avons cessé d'encourager, saluons avec plaisir la promotion au rang de vedette de Catherine Sauvage. Jacques Canetti, découvreur de personnalité, place en haut de l'affiche des Trois Baudets cette chanteuse au talent mordant et ironique qui, sans concession, fait découvrir au public des chansons étranges et tendres que le jeune et célèbre chef d'orchestre Michel Legrand décore d'harmonie somptueuse.
Quel est, Catherine Sauvage, le climat de cette nouvelle chanson de Léo Ferré?
Le climat en est particulièrement Léo Ferré, c'est-à-dire très âpre. Et Michel Legrand a fait pour cette chanson un arrangement vraiment extraordinaire. Et aux Trois Baudets, je chanterai cette chanson sur l'arrangement de Michel Legrand.
La vie t'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas t'en mêler, t'es un type à part, une graine d'ananas. On me dit que t'as poussé en dessous d'un gibet où ton grand-papa balançait déjà avec un collier. un collier dressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas.
Peu, j'ai travaillé au disque et puis des gens de disque ont entendu et ont commencé à me demander. Et je suis devenu rapidement un orchestrateur de disques fameux, enfin, ou fumeux selon le cas, parce qu'à l'époque, vous savez, moi je passais ma vie à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Alors, c'était souvent des concertos d'orchestre accompagnés par un chanteur au lointain. Il y avait un fou un peu allumé qui était là, qui a orchestré. C'était moi, j'ai fait des tas de choses comme ça, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. C'était un programme, c'était une époque très belle pour le disque. Parce que c'était en tout cas violent, original, pour sûr. Moi, je n'aime pas faire des choses à la facilité. C'est-à-dire que j'aime tout à coup, il faut que j'invente quelque chose. Il n'y a pas un nouveau son, si ce n'est pas original, s'il n'y a pas des choses qu'on n'a pas fait avant, ça m'amuse beaucoup, moi.
Je voudrais vous faire entendre d'autres versions de « Mets de thunes dans le bastringue » par Catherine Sauvage.
Mets de thunes dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zingue et t'auras du bonheur.
Cette orchestration ne manquera pas de vous surprendre. Boris Vian.
Je trouve qu'il y a exactement entre l'orchestration de Michel Legrand et la musique de Jean Constantin le décalage qu'il y a entre les paroles astucieuses de Constantin et son air qui veut faire semblant d'être un petit air facile. Il y a de la parodie dans l'air dans l'orchestration de Michel Legrand. On entend un vieux rappel de Tiger Rag et tout ça. Et je crois que Michel Legrand se situe très exactement dans la lignée des musiciens modernes en ce sens. C'est qu'il a fait une orchestration qui fait le même gag que les paroles de Constantin sur sa musique.
Il a quelque chose qu'il a appris chez Nadia Boulanger, entre autres, mais qui est un talent, qui est évidemment quelque chose qui tient à son génie propre.
Bertrand Dical.
Qui est la capacité à décomposer les choses. C'est-à-dire que très très souvent, les arrangeurs, quand ils disent « tiens, on va jouer quelque chose un peu swing », donc ils vous mettent un piano, une contrebasse, une batterie, une petite guitare derrière. Il y a un goût de la guitare années 50, de la guitare jazz années 50. Et ce que fait souvent Michel Legrand, c'est qu'il retire quelque chose. Il retire la contrebasse, par exemple. Ou il retire la batterie. Et ce qui l'intéresse souvent, c'est de faire swinguer sans la batterie. Ou de faire franchouillard sans l'accordéon. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Il est capable d'aller complètement là où rien n'est prévu par la feuille de route. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la musique contemporaine, on n'est pas dans le jazz, on n'est pas dans la variété, on est ailleurs. Je me souviens d'un arrangement pour Greco qui, je crois, a été refusé à l'époque par Philips. C'est une chanson qui s'appelle Daphénéo. Honnêtement, ça ne ressemble à rien. Alors aujourd'hui, où on a une oreille qui est quand même habituée à énormément de choses, ça passe. Mais dans les années 50, franchement, c'est extrêmement étrange.
Dis-moi, Daphénéo, quel est donc cet arbre dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent? Cet arbre chrysalineux, c'est un noisetier.
Ah! Ces chansons vont,
Françoise Canetti,
parvenir au public, vont envahir les oreilles des gens. C'est-à-dire ces chansons qui étaient jusqu'à présent, je dis pas populaires, mais difficiles à faire passer, vont passer le cap. Il crée, sans le savoir, la musique classique de notre époque. Et ces orchestrations de ces chansons, quand vous les réécoutez, ça n'a pas d'âge. C'est beau. Point.
Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela.
Un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Donc, j'ai beaucoup d'arrangements à faire, je suis à la bourre, il faut que tu m'aides. Viens !»
Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur.
En fait, moi, je devais faire vraiment que du classique. Bon, mais c'est bien joli, mais quand on sort du conservatoire, il faut gagner sa vie. Et alors Michel m'a tout de suite mis le pied à l'étrier. Il m'a dit, si tu veux gagner un petit peu de sous, lui, il a commencé plutôt à se prostituer, parce que pour les classiques, on se prostituait. Ah ben, à cette époque-là, c'était très cloisonné. Pour les gens classiques, ceux qui faisaient de la variété ou du jazz, c'était le rebut, quoi. Oui, oui.
À ce point-là.
Ah oui, c'était à ce point-là, oui, oui. Il y avait quand même une originalité. Oui, il y a des arrangeurs qui étaient bien, mais qui faisaient ce qu'on appelle un peu de la soupe. Les violons à l'unisson, enfin, vous avez, voilà. Vraiment le truc pour le gros public. Ce qu'on appelle de l'eau tiède, quoi.
Alors que Legrand et vous, c'était...
On ne faisait pas de l'eau tiède, c'était plutôt de l'eau bouillante par moment. C'est plus recherché du point de vue harmonique, du point de vue rythmique. Enfin, voilà. Il y a des trouvailles, si vous voulez, voilà.
Pianiste, accompagnateur, orchestrateur, arrangeur, Michel gravit les échelons à vitesse grand V. Jacques Canetti lui donne carte blanche au point même de le laisser travailler avec son concurrent de l'époque, le producteur Eddie Barclay. Les deux hommes sont amis, ils composent ensemble une musique pour Catherine Sauvage. Eddie Marnay se charge des paroles, ce sera la valse des Lilas. La première chanson de Michel traversera l'Atlantique, Sarah Vaughan, une des plus belles voix du jazz, la reprendra, suivra Miles Davis, un standard du jazz aîné, rebaptisé aux États-Unis Once Upon a Summertime.
Michel, c'est un garçon que j'ai admiré toute ma vie. Je suis très jaloux de Michel, finalement. J'aurais voulu être un arrangeur et un artiste comme lui.
Dans le fond, vous auriez préféré être Michel Legrand, pianiste, compositeur,
ah, oui,
que Eddie Barclay, milliardaire.
Ah, nettement. Ça, je suis fou furieux, là. Qu'il ait pu arriver à atteindre ce talent et ce degré musical, moi, ça me rend malade.
Il vous doit quelque chose, Michel Legrand?
Oui, Michel me doit... Non, il me doit rien, parce qu'on est trop amis pour qu'il puisse me devoir quelque chose. Mais en réalité, j'ai aidé Michel pour le faire découvrir aux autres. Comme j'aurais aidé, en réalité, n'importe quel talent pour que celui-ci puisse se faire apprécier par les autres personnes. Si bien qu'on est resté de longues années à jouer du piano ensemble, s'amuser ensemble, jouer au ping-pong ensemble, faire des chansons ensemble. Et on a même d'ailleurs fait une chanson, on a écrit ensemble une chanson qui s'appelle La valse des Lilas, que j'aime beaucoup. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrite avec Michel, mais enfin, j'aime vraiment beaucoup cette mélodie.
Je vais avoir 20, 21 ans, 22 ans. Je me rappelle, on était en soirée chez Eddie Barclay, qui était c'était l'homme riche du groupe. On était vraiment quatre copains inséparables, du même âge. Quelques années près, il y avait Philippe Veil, qui était décorateur à l'époque, Boris Vian, Eddie Barclay et moi. Là, il y avait Eddie, c'était chez lui, il avait un beau piano et tout à coup, je crois que j'ai fait cette chanson-là. Il y avait Eddie Marnay qui traînait aussi dans la soirée.
Je crois que dans le monde de la variété, dans le monde tout court, il est reconnu comme le plus grand.
Eddie Marnay.
Il est la musique incarnée et les Américains s'inclinent devant le génie de Michel Legrand. Michel est un génie.
Privilège, c'est pour vous, c'est celui d'avoir écrit les paroles de sa toute première chanson. Hein.
Oui, c'est sa vraie première chanson. Oui.
Et c'est la valse des Lilas.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret. Sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, 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 s'aiment. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Bitterly, wonderly, and dear, but I don't know. Wamba window, but dear, tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront.
I Love Le Grand.
1, 2, 3, 4.
Une série musicale des médias francophones publics par Leïla Kadour Boudadi.
Je travaillais pour la maison Philips à l'époque. Il y avait un directeur magique qui s'appelait Jacques Canetti, qui était un homme que j'adorais, qui me le rendait bien. Et ils étaient liés par des anneaux à la maison Columbia-Américaine. Et la maison Columbia-Américaine, au début du micro-sillon, donc dans l'année 54, a dit, tiens, puisque maintenant on peut faire 40 minutes de musique, avant c'était 3 minutes et demie, ou ça, est-ce qu'on peut pas faire... Et ils ont demandé à des chefs d'orchestre américains, faites-nous une espèce de fresque comme ça sur plein de chansons de Paris. Alors, la maison Columbia, ils ont téléphoné à Philippe, ils ont dit, écoutez, en France, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait le faire, parce qu'il n'y a personne qui veut le faire. Alors, Canetti m'appelle un jour, il me dit, écoutez, voilà, une demande américaine, ils veulent un disque sur Paris, est-ce que vous voulez le faire? J'ai pas eu de contrat, pas de royalty, rien. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'ai touché 2000 francs. Mais pour moi, c'était magnifique, parce que j'étais un débutant en 54. C'est le premier disque que j'ai fait. Et alors, chose extraordinaire, c'est que ce disque, ils en ont vendu des millions et des millions et des millions. Donc, grâce à ce disque-là, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai pu commencer à travailler à Philippe, parce que tout le monde me connaissait sous un autre nom, puisqu'on m'appelait Big Mike.
Big Mike est parti à la conquête de l'Amérique, et ça, c'est en partie grâce à une révolution de l'industrie du disque. Le 33 tours remplace le 78 tours. On passe de 3 à 20 minutes par face. Michel s'engouffre dans la brèche et I Love Paris est un succès. Dans les magasins de disques aux États-Unis, la silhouette de Michel Legrand, en pied et grandeur nature, apparaît sur d'immenses présentoirs. New York sera pour lui une révélation. La patrie de la musique, c'est ici. Il sait déjà qu'il y posera un jour ses valises. Et de son premier voyage, il ne revient pas bredouille. Un nouveau son fait fureur chez les Yankees, le rock'n'roll. Pour Michel, homme de la nuance, c'est une musique à deux accords d'une vertigineuse pauvreté harmonique. Bref, ce n'est pas du sérieux. Sur ce coup-là, on ne peut pas dire que tu as eu du nez, Michel.
Il y a ce succès américain de I Love Paris avec 8 millions de disques qui sont vendus en 1956. Que se passe-t-il? Eh bien, Canetti et Michel Legrand ramènent des États-Unis un rythme que l'on ne connaît pas en France. Ils ramènent le rock'n'roll.
C'est le début du rock'n'roll aux États-Unis. Il y avait un orchestre qui, pour la première fois, faisait un rock qui s'appelait Rock Around the Clock.
Bill Haley, c'était.
Bill Haley, voilà, merci.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock, no.
Ça les amuse beaucoup, le rock'n'roll, parce que à cette époque, le rock'n'roll est assez pauvre sur le plan mélodique. Et donc, lorsqu'ils ramènent le rock'n'roll en France, la première chose que fait Michel et mon père, c'est d'en parler à leurs deux copains, Boris Vian et Henri Salvador, avec lesquels ils vont faire les premiers rock français.
Et avec cette joyeuse bande, pas d'équivoque. Le ton est donné, le rock sera une farce, un canular. Pour éviter de se compromettre dans le milieu du jazz, ils prennent tous un pseudonyme. Boris Vian s'en donne à cœur joie dans les paroles, sous le regard amusé de Michel, jamais le dernier quand il s'agit de plaisanter.
Je nous vois encore avec Boris tous les deux assis devant le piano en train de délirer, on pleurait de rire comme ça lorsqu'il lançait des choses comme « Va te faire cuire un œuf » ou bien « Rock'n'roll Mops », enfin ce qui était vraiment irrésistible. On s'amusait vraiment comme des collégiens et je crois que c'est le résultat d'un boulot de collégien, enfin notre petite aventure.
Mais il y a une époque, t'es très copain de Boris Vian et tout un groupe d'amis.
Xavier Beauvois, cinéaste.
La connerie, c'était au niveau compétition. Ils inventaient des choses et ils trouvaient des moyens pour faire des blagues, mais de plus en plus énormes. Par exemple, il y avait une exposition d'une baleine sous la Tour Eiffel, la plus grande baleine du monde. Et à Boris Vian, on dit, on va faire l'expo du plus petit poisson du monde. Donc, Michel, comme t'es un pêcheur, tu vas nous trouver une petite tablette, la plus petite que tu puisses trouver. Donc, ils ont installé une petite tente avec un écriteau, le plus petit poisson du monde. Ils faisaient payer, puis dedans, il y avait un aquarium avec une tablette. Après, ils se sont fait arrêter par les flics, mais des trucs comme ça, ils en ont fait plein.
Ça nous a amusés, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'on n'a pas été fascinés par le rythme parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et alors, en rentrant, Jacques m'a dit, écoutez, pourquoi on ne s'amuse pas à faire comme ça quatre chansons ? Faites-nous quatre trucs, mais il faut être prêt lundi. Et naturellement, on était dimanche matin, quoi.
On a fait une erreur parce que nous prenions ça un petit peu à la blague. On ne voyait pas le côté sérieux que les Américains, les jeunes en Amérique, donnaient à ces chansons. Aucune des chansons n'a vraiment marché. Parce que Boris a fait des chansons qui étaient parodiques. Et le public français n'était pas prêt à entendre des chansons parodiques, surtout les gens qui pourraient s'intéresser au rock'n'roll. C'est à ça que j'attribue, en quelque sorte, l'échec commercial des premiers rock'n'roll de Boris. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ?
Oui, mais vous êtes fou, vous, d'abord, Monsieur Jacques.
Oui, c'est connu.
Lorsqu'on est rentrés de New York tous les deux, on s'est mis chez moi à la campagne avec Boris tous les deux, et on a tout fait dans l'après-midi. Je vous dis pas ce qu'on a fait d'autre dans l'après-midi. On a été à la pêche, on a beaucoup parlé, et puis quand vraiment il ne nous restait plus que le temps technique d'écrire les chansons, on les a commencées.
Après avoir pêché, de toutes les manières.
Vous pensez bien, oui, bien non, sûr.
Les paroles de ces chansons étaient longuement mûries, on y sent beaucoup de réflexion.
Rock'n'roll Mops, par exemple, qui nous a bien fait rire quelques minutes.
Inspiration alimentaire.
Des carcasses pour te dégoter du boulot. Tu vis chez moi comme un salaud. Tu mimi-fringues et mets limaces, mon pote. J'en ai marre de faire le crétin. Tu pousses ma soupe et ma barbaque. Tu passes ma femme dans les coins noirs. Tu fumes mes pipes et mes cigares. Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote. Demain, demain dans le premier train, bon. Oh, va te faire cuire un œuf, mais va te faire cuire un œuf, mais. Et surtout, ne reviens pas. Car si tu reviens, j'en fais le serment. Tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain blanc. Tu peux aller me dire un œuf.
Non, c'est vrai. Et puis alors après, Jacques, moi, on s'est réunis, on s'est dit, bien, on va les faire chanter par Henri Salvador. Car c'était vraiment le chanteur idéal, quoi. Il swingait vraiment beaucoup, il avait une mise en place formidable, il avait vraiment le style parfait pour ça.
Mais il manquait de courage. Il n'a pas cru que ça marcherait. Il a demandé qu'on lui donne un autre nom ne marcherait pas. Boris, qui était vraiment très inventif, a trouvé un merveilleux nom.
Oui. Henri Cording.
Henri Cording.
Et moi, j'avais un autre nom. Il m'avait appelé Big Mike, je ne sais pas
Big
quoi.
Mike.
Oui, c'est ça.
Ce qui est curieux, c'est que sur la pochette de ce disque, derrière le texte, où on voit
en recording, il est écrit une série de choses certainement très justes sur l'activité d'un recording allant sur l'Annapurna et à cheval. Mais il est dit aussi que si certains remarquent une certaine analogie entre la voix d'un recording et d'un autre Henri, un certain Salvador, qu'il s'étonne. Voilà tout.
Et vous avez signé, si ma mémoire est fidèle.
Oui, absolument. Jacques Canetti a
Jacques
signé, mais c'était
très Netti.
C'est l'homme doué d'un éclectisme absolument phénoménal.
Didier Varro.
C'est l'homme qui, effectivement, croit au syncrétisme entre les expressions et les esthétiques musicales. Mais c'est l'homme qui passe à côté du rock. C'est l'homme qui donne un coup de taloche avec Boris Vian et Henri Salvador en recording. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Le Grand donne ce coup de taloche. On passe les années 60. Et avec Nougaro, puis avec les films de Demy, il va passer finalement dans la culture pop. On aurait bien aimé savoir ce que ça aurait pu donner une collaboration entre une star du rock et Michel Legrand, mais je pense que c'est vraiment le seul terrain dans lequel Legrand n'a pas finalement été. Et ça veut dire aussi qu'il y a une sorte d'intégrité, de ligne claire. Dans, voilà, on n'est pas éclectique parce qu'on veut manger à tous les râteliers et boire à toutes les sources. Non, 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 on garde ses fondamentaux et on garde son enracinement.
On va faire Rock'n'Roll Mops.
Je laisse lui dans un instant, face à la lueur que j'ai dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille, dans mes grands badauds en autant. On s'est aimé comme des dieux, à Savour on serait resté bleu.
Le bonheur jouait dans un coin, des airs de jazz qui swingaient bien.
Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin à l'eau du pont. Montez-moi donc, de quoi manger, sinon je vais crever.
Qu'est-ce qu'il faut vous apporter?
Apportez-moi sans hésiter.
Rock and roll, ma.
Avec du pain beurré.
Rock and roll, ma.
Et du bifteck haché.
Rock and roll, ma.
Avec un œuf à cheval.
Rock and roll, ma.
Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de l'air au fric confit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné.
Rock and roll, ma.
Ça m'a réconforté.
Rock and roll, ma.
Je suis plein à craquer.
Rock and roll, ma.
Ma force avait couplé.
Rock and roll, ma.
On est retourné se coucher. Sharp, sharp, ou pas. Dabba dip, bubi, dabba, dabba, joli, ba. Avec un œuf à cheval, je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie d'oignon au salsifis, de la tête de l'air au fric confit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Ça m'a réconforté. Je suis plein à craquer. Ma force a décuplé. On est retourné se coucher.
I Love Le Grand. Une série des médias francophones publics par Leïla Kadour Boudadi.
Mesdames, messieurs, voici maintenant devant notre micro Maurice Chevalier.
Écoutez, je suis très très heureux de venir ici juste avant de repartir en Amérique faire attelage avec probablement le plus jeune de nos grands chef d'orchestre actuel, qui est Michel Legrand. Vous savez que j'ai pour son père, Raymond Legrand, une très vieille affection et une très vieille admiration. J'ai un peu l'impression encore de serrer la main de son père à travers lui.
«
Et dans ces mêmes années, en 1955, Jacques Canetti fait signer chez Philips Maurice Chevalier, une star de l'ancien monde qui a besoin d'un petit coup de jeune. Chevalier a 67 ans, ses plus grands succès sont derrière lui. Pas de doute, c'est une mission pour Magic Mike. Il se met alors au service de cette icône. Chevalier est invité aux États-Unis. Il n'y a plus mis les pieds depuis quelques années. Il lui était interdit d'entrer sur le territoire pour s'être prononcé contre les armes nucléaires. Retour en fanfare pour l'homme au canotier. On lui a réservé un grand show, la première émission en couleur de la télévision américaine. Et Michel Legrand est à ses côtés.
La première fois que je suis allé à New York, j'étais le chef d'orchestre de Maurice Chevalier à l'époque. C'était en 50, je sais pas, 4, 5. Et c'est Chevalier qui m'a demandé, il m'a dit, voilà mon cher, je fais un spectacle d'une télévision à New York. C'était le début de la télévision en couleur aux États-Unis, Marvel. Et est-ce que vous viendriez diriger avec moi? Et c'est la première fois qu'il m'a emmené à New York.
Allô, l'Inter, je voudrais New York. Pourrais-je parler à monsieur Michel Legrand?
Michel Legrand, Big Mich, le jazzman français.
Maurice Chevalier prépare sa rentrée à Paris à l'Alhambra, qui est une grande salle à l'époque de 2800 places. Et donc il va confier à Michel Legrand le soin d'orchestrer tout son spectacle. Il y a une profonde admiration de Maurice Chevalier à l'égard de Michel Legrand. Maurice, il a à cette époque 64-65 ans et il se rend compte qu'il a besoin d'éléments plus jeunes pour pouvoir réorchestrer ses chansons Prosper Youplaboum, Ma Pomme, Sous les toits de Paris. Enfin, il y a plein de chansons de Maurice Chevalier qui ont besoin d'être revisitées avec une oreille plus jeune.
Bien, vous entendez en ce moment l'orchestre de Michel Legrand qui répète. Il est sur la scène de l'Alhambra Music Hall, ou plutôt de l'Alhambra Maurice Chevalier, qui fait sa réouverture. Quand, Jacques Canetti?
Le 28 septembre, le vendredi 28 septembre, l'Alhambra devient l'Alhambra Maurice Chevalier et présente à cette occasion un spectacle dont nous sommes tous fiers. C'est un spectacle d'équipe qui permet de montrer pour la première fois à Paris un spectacle ayant une unité complète dans le style et dans le ton. Cette unité étant en quelque sorte établie par la présence de Michel Legrand et son orchestre.
Allons-y.
Et bien maintenant, nous allons quitter le plateau pour rejoindre Maurice Chevalier qui va quitter, lui, sa loge.
Oh, le programme est extraordinaire. Nous avons le meilleur musicien moderne de France qui s'appelle Michel Legrand, qui est un tout jeune homme, qui est non seulement un orchestrateur mais un chef d'orchestre extraordinaire et qui est déjà populaire dans le monde entier. Michel Legrand, indiscutablement, va être une des lumières de la musique moderne dans le monde.
C'est totalement oublié aujourd'hui, mais Maurice Chevalier, c'est un révolutionnaire.
Bertrand Dical, journaliste.
L'américanisation de la culture française, ça commence avec Maurice Chevalier, qui réadapte du ragtime américain et tout ce qui est le plus moderne, le plus nouveau. Et Maurice Chevalier, sans une évidente proximité entre Michel Legrand et lui, d'abord par le fait qu'ils ont commencé très très jeunes à travailler, à plonger dans la musique, et sur le fait que Michel Legrand, comme Maurice Chevalier, arrive très très bien à mettre quelque chose de totalement neuf dans une forme très ancienne. Et dire que quand Maurice Chevalier arrive avec son accent comme ça, parigot, etc., c'est pas du tout de la chanson parisienne. Il invente un genre complètement nouveau et tout le monde croit que c'est une tradition parisienne. Et c'est un peu ce que fait Michel Legrand. Plus le fait que dans les années 40-50, il s'est passé quelque chose avec la variété française, qui est que la variété française a changé de rythme. Avant, elle était massivement à deux temps, puis elle est passée à trois temps. Des valses tout le temps, des chansons qui guinchent. Et Michel Legrand, il prend la valse musette, Berlioz et Chopin, et le jazz américain, et il en fait sa sauce à lui. Et c'est un peu une révolution comme celle de Maurice Chevalier. On a l'impression que c'est un cliché, on a l'impression que c'est immobile, alors qu'en fait, c'est vraiment révolutionnaire.
Le spectacle de l'Alhambra,
Françoise Canetti,
est un spectacle assez étonnant, parce que vous avez une première partie, Boris Vian, qui va mettre en scène avec un film, l'arrivée de Michel Legrand avec sa formation. Et en seconde partie, vous avez Maurice Chevalier avec ses chansons et avec son public. Et donc, vous avez un public très très partagé. Vous avez d'un côté des mauvaises critiques, vous avez des gens qui sont pas contents, et vous avez quand même les copains de Michel Legrand qui lui disent « Tu sais, tu as peut-être intérêt à ne pas le faire parce que c'est trop dangereux pour toi. »
Oui, oui, je me rappelle, on avait 35, on avait 35 cuivres. Je me rappelle très bien que les 20 premiers rangs de tous les soirs hurlaient « Ça suffit, arrêtez, jouez moins fort, sortez, allez-vous-en. »
Vous avez été descendu en flammes par deux journalistes dont l'un vit toujours.
Il a dit, je me rappelle, il a dit « Michel Legrand confond la musique et les fonderies du Creusot. »
Et donc c'est assez difficile. Le public de Maurice Chevalier n'aime pas forcément ce que Michel Legrand lui propose. Je vous donne un exemple. Porcelaine de Saxe en jazz, Deux boulets morts, composé par Michel Legrand avec son orchestre de jazz, Trombone à tout faire, Délirium très mince, c'est-à-dire, voilà, ce sont quelques-uns des airs que Michel Legrand joue avec sa formation de 30 musiciens.
Les amis, les copains me disaient « Écoute, arrête, tu vas pas continuer de faire huer tous les soirs comme ça. » Je leur disais « Mes enfants, c'est ce que j'écris en ce moment. Quand j'écris quelque chose, j'écris ça. Alors c'est vrai que c'est un peu hermétique, c'est un peu moderne, c'est un peu difficile, mais je veux pas faire autre chose, c'est ça. Je ne veux pas écrire comme M. Schmutz ou M. Schmitz. J'écris moi, parce que, bon, ils aiment pas ça. » Alors. Jean Canetti m'a dit « Michel, ne changez rien, continuez comme ça, et puis un jour, vous verrez, le public viendra à vous comme ça. » C'est le seul qui m'a encouragé à continuer.
Michel dit souvent que quand il doutait de lui, il se remémorait cette phrase de Canetti « Michel, ne changez rien. »
Le succès n'est pas au rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, Michel Legrand a goûté au plaisir de la scène. En l'espace de quelques années, il s'est imposé comme arrangeur. Il a multiplié les collaborations avec la fine fleur de la chanson française, s'est fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique, sans oublier qu'il a rencontré dans les loges de l'Alhambra un jeune auteur-compositeur, Claude Nougaro. Ensemble, ils donneront naissance à un micro-sillon qui bouleversera le cours de la musique française.
C'était I Love Legrand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour-Boudadi, orchestrée par Fanny Boyon, à la trompette, Marie-Laurence Chéry. Tous nos remerciements à Thierry Dupin, Romain Couturier, Anne Weinfeld et Stéphane Lerouge.